enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Est-ce que vous allez bien? Vous êtes en forme? Vous êtes avec moi? Vraiment? Vous savez, ce que je crains souvent, c'est que on puisse venir dans ce lieu et puis s'habituer à ce qu'on entend, s'habituer à ce qu'on voit, ne plus prêter attention lorsque bien le Seigneur parle au travers de sa parole ou au travers de paroles de connaissance, simplement s'habituer. Et je crois que cela est néfaste pour nous, est mauvais pour nous. On vit dans un monde aujourd'hui où les choses sont très souvent virtuelles, n'existent pas. On lance sans arrêt des nouvelles modes, des nouveaux jeux. Maintenant, on a inventé la Wii. Hein, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des gens, au lieu de faire du tennis sur un terrain de tennis, ils font du tennis seuls devant leur télévision. Ou d'autres sports, ou d'autres choses, encore d'autres jeux. On vit dans un monde particulier, un monde virtuel, un monde complètement faux et complètement fou. Vous avez entendu, comme moi, les horreurs qui se sont passées dans notre pays, pas seulement en Autriche, mais encore hier, j'entendais aux informations dans ma voiture qu'un jeune garçon de 16 ans, je crois, a poignardé, ou 15 ans, a poignardé des camarades dans sa classe, et l'un d'entre eux est entre la vie et la mort. On a l'impression qu'on a vraiment touché le fond. On a l'impression que tout va de travers et qu'on vit dans un monde qui... On se demande si on peut aller plus loin dans l'horreur. On vit dans le monde du virtuel, je disais tout à l'heure. Lorsque les gens ont des problèmes, aujourd'hui, face aux difficultés, on va fuir les difficultés de différentes manières. Et on va faire n'importe quoi. Parce que les difficultés, on n'en veut pas. On n'en veut plus. On n'a pas envie de cela. Alors on va s'inventer des choses et on va les fuir. On va se créer une nouvelle identité parfois. Je lisais un article l'autre jour sur un sénateur qui était en train de faire un rapport d'information sur les gens, sur la population française qui vit dans le monde virtuel. Alors j'étais troublé par cela, parce que moi-même j'ai pas l'impression de vivre dans le virtuel, mais d'être dans la réalité. Mais en lisant quelques lignes de ce rapport, j'étais stupéfait. Stupéfait au point que le gouvernement aussi s'inquiète de ce que nos concitoyens vivent dans le virtuel, et cela de plus en plus. Et cet homme, ce sénateur qui s'appelle Claude Huriet, a écrit un rapport de plusieurs centaines de pages, qui est le rapport numéro 169 au Sénat, où il met en garde nos autorités, mais où il nous met tous en garde des dangers du monde virtuel et de ce que cela engendre. Je me pose la question, et je vous pose la question aussi en tant que chrétien, est-ce que je vis vraiment dans un monde réel? Est-ce que ce que je fais dans mon quotidien correspond à une réalité? Dans cet article, on parlait d'un jeu. Un jeu qui est fait pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Peut-être en avez-vous entendu parler, qui s'appelle Second Life. Ce jeu a un succès énorme. Plusieurs millions de personnes jouent à ce jeu sur Internet. De quoi s'agit-il? Eh bien, simplement, on vous propose de vous créer un nouveau personnage. Un nouveau personnage. Vous prenez une nouvelle identité, un nouveau nom. Et puis vous vous inventez une place dans une société que on a créée, fictive, qui n'existe pas, avec de l'argent, avec tout ce qu'on peut trouver dans notre société, on le trouve dans cette société virtuelle, et chacun s'invente une vie dans ce jeu qui s'appelle Second Life. Et avec stupéfaction, j'ai vu qu'il y avait plusieurs millions de personnes dans le monde qui étaient actuellement, qui avaient créé actuellement leur personnage dans Second Life. Aussi bien des enfants que des adultes. Et je me dis, mais Seigneur, mais où on est? Où on vit? On a retrouvé un homme, un jeune homme de 26 ans, mort devant son ordinateur. Sa famille a dit qu'il venait de passer 86 heures non-stop à jouer à ce jeu. Complètement imbibé par son faux personnage. Certaines personnes ont arrêté de travailler parce qu'ils n'ont plus le temps et ils ont complètement pris cette identité qui n'est pas la leur et qu'ils se sont inventés. Ils sont hors de la réalité, hors du temps, hors des choses. Satan, le destructeur, l'abominable, celui qui cherche à voler les âmes, réussit un coup extraordinaire. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas si on peut tomber plus bas que ce que l'on est aujourd'hui dans la société. C'est terrible. C'est terrible de voir combien facilement les gens se laissent voiler par toutes sortes de choses qui est censé leur apporter un pseudo-bonheur. Satan endort les personnes. Il leur voile la face. Simplement. Il a une quantité d'artifices pour cela. Il agit parfois individuellement et parfois au niveau de la société. Je rencontrais l'autre jour un jeune homme qui me disait « Vous savez, je pense que fumer un pétard de temps en temps, même si on croit en Dieu, c'est pas un problème. C'est pas un problème. » Je dis « Mais pourquoi tu fumes un pétard ?»« Mais ça me permet d'être ailleurs pendant un instant, de me déconnecter de la réalité. » Alors que Jésus, lui, veut nous connecter à la réalité. Je me rends compte de plus en plus que les gens ne savent plus ce que c'est que la nature, n'ont plus de contact avec les choses simples de la vie. Satan est capable d'anéantir une société entière. Alors ne nous croyons pas plus malins que les autres. Lorsque je vois ce qui se passe actuellement dans le monde occidental, je suis effaré et j'ai l'impression de relire l'histoire romaine, l'histoire des Romains, mais peut-être même en pire, parce qu'on ne sait pas ce qui va encore nous tomber dessus. Lorsque les Romains étaient au maximum de leur puissance, eh bien tout doucement, la société est devenue décadente par des choses d'abord très simples. On a, comme chez nous d'ailleurs, on a arrêté d'envoyer les gens faire leur service militaire. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus grand monde qui fait son service militaire. Dans d'autres pays aussi, certains me diront « Oui, mais le service militaire, ça sert à rien. » Oui, peut-être, mais la notion de discipline, la notion d'obéissance, c'est quand même une notion que moi-même j'ai dû apprendre à l'armée. Et je pense qu'aujourd'hui, en regardant la société, je me dis parfois, ça ferait du bien de renvoyer tout le monde faire un stage à l'armée. Pas pour faire la guerre, mais pour apprendre à obéir et apprendre à se discipliner. Ensuite, on a donné aux Romains du pain et des jeux. Et ensuite, ça a été les orgies de nourriture, les orgies sexuelles. Et tout ça aujourd'hui, on y est, on a atteint cela. Le résultat, c'est que la natalité dans le peuple romain a diminué à une vitesse grand V. Et je pense que c'est le malaise de beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui aussi. Tout simplement à cause de nos mœurs. Et puis, tout doucement, les Romains ont touché le fond. Alors on parle de la décadence romaine. Je voudrais qu'on puisse réaliser qu'aujourd'hui, on est dans la phase de la décadence à grande échelle du monde occidental et autres. Vivre sans illusion, c'est le secret du bonheur, disait Anatole France. J'ai trouvé ça. Et c'est un homme qui essayait de voir clair dans sa vie, qui vivait sans illusion. Et nous, en tant que chrétiens, je pense que nous devons apprendre à vivre sans illusion. Satan est un menteur, un destructeur, un tueur et un assassin. Un voleur et un assassin, nous dit la Bible. Dans le deuxième livre des Thessaloniciens, au chapitre 2, voilà ce qui est écrit au verset 9. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan. Il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Je pense qu'on est en train de voir cela dans la technologie moderne aujourd'hui, qui entraîne un tas de gens à la perdition. Il usera du mal sous toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Je répète, parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Le titre que j'ai donné à mon message aujourd'hui, c'est « Vivre dans la vérité ». Jésus nous invite à vivre dans la vérité. Verset 11, il est écrit « Voilà pourquoi ». Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les pousse à croire aux mensonges. Aujourd'hui, plutôt que de croire à ce que l'Évangile nous enseigne et nous annonce, on croit à toutes sortes de sornettes et les choses s'accélèrent à une vitesse incroyable. Hier soir, j'ai regardé les informations en rentrant et j'ai vu qu'aux États-Unis, maintenant, on commençait à implanter des puces électroniques de la taille d'un grain de riz dans les membres de certaines personnes, où vous avez à l'intérieur de cette puce électronique tout le pédigré de votre personne. Ce que la Bible nous annonce il y a bien des siècles se réalise strictement à la lettre. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous fait voir à quelle heure nous sommes. Et je bénis le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Ce soir, mon but n'est pas de vous faire peur, mais de réjouir vos cœurs. Mais aussi, mon second but, c'est de nous réveiller pour que nous puissions nous mettre au boulot et arracher un maximum d'âmes des griffes du malin, du destructeur, qui entraîne une masse de gens de manière tout à fait innocente. Ah, mes frères, mon enfant, il passe 10 heures par semaine devant son ordinateur, mais c'est pas grave, il faut le laisser, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je me garderai de faire cela. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse se réveiller. Nos enfants ne connaissent plus la réalité des choses simples de la vie. Et c'est grave. Nous sommes dans les temps de la fin. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous le fait voir. Il nous le dit. La vie est difficile. Nous dit-on, on entend cela, la vie est difficile. Quelle est notre attitude face à la difficulté? Quelle est mon attitude face à la difficulté? Depuis plusieurs décennies, on entend sur les ondes, on entend partout qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, ce n'est plus normal de voir souffrir des gens. Et on a inculqué ça à tout le monde. Et aujourd'hui, il est impossible de revenir sur des droits acquis, même que les choses vont très mal. On veut que les choses changent, mais si ça touche notre portefeuille, stop ! Surtout pas ! À peine on veut bouger des choses, tout le monde est dans la rue. Les difficultés. On n'a plus le droit de souffrir, il faut tout faire pour que les personnes ne souffrent plus. Il faut faciliter la vie un maximum. C'est une bonne chose dans un sens. Mais à quel prix? À quel prix? L'homme cherche la vie facile. Certains ne feront rien. pour avoir la vie facile. Et d'autres, au contraire, pour avoir la vie facile, vont travailler comme des forcenés, vont faire souffrir parfois leur famille, détruire même leur famille, pour gagner un maximum dans le but, un jour, d'avoir la vie facile. Et quand ils pensent y être arrivés, ils ont tout cassé, tout détruit. Quelle est leur motivation ? Bien-être, richesse, orgueil ? Tout cela, c'est égoïste. Ce matin, ma jeune belle-sœur Nathalie est venue me chercher à midi. Elle me dit, Christian, est-ce que tu pourrais vite venir ? Il y a une sœur qui m'a appelé, elle est en panne à 300 mètres d'ici, à un carrefour, et sa voiture n'avance plus, il faudrait que tu puisses l'aider à pousser la voiture sur le côté. Alors je lui dis, mais à ce carrefour, il y a plein de gens, il y a bien quelqu'un qui va l'aider à pousser sa voiture. Nous sommes arrivés sur les lieux à peu près 10 minutes après, peut-être que la sœur est là. J'arrive au carrefour, en plein milieu du carrefour, une circulation très dense. La voiture est toujours là, arrêtée au feu rouge. Et ma sœur à côté de sa voiture. Et je lui dis, mais quand le feu devient rouge, est-ce que tu as demandé aux personnes de t'aider à pousser ta voiture ? Elle m'a dit, oui, mais rends-toi compte, personne ne voulait pousser ma voiture. Mais c'est effarant, pendant 10 minutes. Mais j'en croyais pas mes oreilles. Vous savez ce qu'elle a fait la sœur ? Elle a été sonnée dans les maisons autour pour savoir peut-être si quelqu'un voulait. Rien. On lui répondait, on n'a pas le temps, on est pressé. Mais c'est incroyable. Les gens préféraient rester derrière la voiture, faire des... plutôt que de descendre pendant 10 secondes ou 20 secondes et pousser la voiture. Je n'arrive plus à comprendre notre société d'aujourd'hui, égoïste, pressée, plus de temps. Mais analysons-nous nous-mêmes. Comment est-ce que je vis ? Est-ce que je suis rentré dans ce cycle où si on me demande de l'aide et du secours, est-ce que je suis prêt à prendre quelques minutes pour secourir celui qui est en panne ? C'est une question que je me pose. Dieu, dans sa parole, ne nous parle jamais d'une vie facile. Vous avez déjà lu ça dans la parole de Dieu ? Non ? Il ne nous parle pas d'avoir une vie facile. L'Éternel nous parle de bénédiction. Il nous parle de bénédiction dans l'obéissance et la foi. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et qu'est-ce que c'est que la bénédiction ? La bénédiction, pour moi, ce n'est pas une vie sans difficulté, sans lutte et sans combat. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, au contraire, c'est de voir la main de Dieu dans mes luttes, dans mes difficultés, dans mes combats. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est le moment où il me donne des solutions alors que humainement je n'en trouve plus, je n'en ai plus. Là c'est la bénédiction de Dieu. Là je vois la main de Dieu agir. Les difficultés, les luttes, les combats vont me permettre de me rapprocher de Dieu, vont me permettre de créer une relation avec lui. On va avoir des affinités avec notre Seigneur au moment où, eh bien, la difficulté viendra. Dieu ne nous a jamais dit qu'on n'aura jamais de difficultés, mais il nous a dit qu'il sera toujours avec nous dans les difficultés. Et nous n'avons pas à fuir nos difficultés. On peut y faire face avec le Seigneur. Et nous les surmontons et surmonterons avec lui. Il nous donnera des solutions. On a envoyé un jour deux commerciaux, deux gars qui travaillaient dans une grande usine de chaussures italienne. Et on les a envoyés en Afrique pour faire une évaluation de ce qu'on pourrait vendre dans ces pays. Et ils étaient tous les deux dans deux pays différents. Et au bout de quelques jours, l'un a renvoyé un fax à sa société en écrivant dans le fax, « Écoutez, je rentre ici, il n'y a aucun espoir, tout le monde marche pieds nus, ça ne marchera pas. » L'autre a renvoyé un fax. C'est extraordinaire, ici, personne n'a de chaussures, il y a un marché phénoménal à conquérir. Deux hommes qui font le même métier. Deux situations identiques, mais deux réactions totalement différentes. L'un optimiste, persuadé qu'il pouvait conquérir un marché énorme et faire beaucoup d'argent, et l'autre qui abandonne au bout de quelques jours en disant « mais ici c'est pas la peine, on vendra pas de chaussures, tout le monde marche pieds nus ». L'un a gagné beaucoup d'argent, l'autre s'est fait virer. Moi, j'ai pas envie de me faire virer le jour où j'arrive devant le trône du Seigneur. Je veux relever les défis. Il m'a fait des promesses dans sa parole. Il m'a promis d'être avec moi tous les jours de ma vie. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. J'avais lu un jour l'histoire d'un homme qui avait un paysan qui avait investi beaucoup d'argent pour faire un poulailler ultra moderne. Et puis la première année, ça a bien fonctionné. La deuxième année, il y a eu des inondations et son poulailler était fini. Et il était très soucieux, il a beaucoup pleuré et il a recommencé. Il a réinvesti de l'argent, il a recommencé dans ses poules. Deux ans après, nouvelle inondation, les poules de nouveau finies. Et cet homme pleurait amèrement et dit « Maintenant chérie, nous sommes ruinés ». Et sa femme lui dit « Mais non ! Mais non, on va investir dans les canards. » On va investir dans les canards. Quand la difficulté nous atteint, arrêtons-nous, parlons avec notre Seigneur, réfléchissons. Seigneur, la solution, toi tu la connais. Toi tu sais où elle est. Aide-nous, aide-moi Seigneur, aide-moi à faire le bon choix dans ma vie. Aide-moi à être vainqueur dans cette situation. Aide-moi à être un exemple. Alors aujourd'hui, ils sont très nombreux ceux qui se sentent escroqués par la vie, par cette manière de vivre en permanence dans un monde virtuel, dans un monde complètement faux, dans un monde où il n'y a que de l'arnaque, où tout est faux. Il n'y a pas que les faux vêtements, les faux sacs de luxe, les fausses montres, tout est faux. Ils sont nombreux ceux qui se sentent lésés par ce mode de vie et qui en ont assez et qui cherchent, qui ont soif d'authenticité. Et c'est ces gens-là que nous devons aller chercher. Ce sont ces gens qui ont besoin de Jésus-Christ. Le monde a soif. Les gens ont soif de vérité. Ils ont soif de transparence. Ils ne se satisfont plus simplement d'apparences qui souvent sont trompeuses. Ils cherchent la vérité. Alors, que pouvons-nous faire? Je crois que nous pouvons être des modèles pour ces gens-là. Des exemples. Des exemples. Des personnes remplies de vérité et remplies d'amour. Rempli d'amour. Jésus était rempli d'amour pour les gens. Il était rempli d'amour pour ceux que l'on n'aimait pas à son époque. Je le disais samedi lors de la cérémonie de mariage de nos bien-aimés. Jésus a fait la démonstration à tous les religieux qui étaient autour de lui, à tous ses disciples, que chaque âme était importante, même ceux que les Juifs considéraient comme mauvais, comme impurs. Parfois, il était l'objet de scandales, parce qu'il allait parler avec des gens avec qui on ne parle pas. Lorsqu'il a parlé avec la Samaritaine au puits, ses propres disciples étaient choqués, ils furent stupéfaits. Lorsqu'il a été mangé dans la maison de Lévi, le publicain, les religieux étaient stupéfaits, choqués. Comment, toi, tu vas manger chez un homme comme cela? Et pourquoi il a fait cela? Parce qu'il aimait. Il aimait ces âmes. Et il ne leur a pas caressé le dos en leur disant, c'est bien, tu peux continuer à vivre comme ça. Non. Jésus les a avertis. Il leur disait de changer de vie. À la femme adultère, il a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus, ne recommence plus. C'était le message d'amour de Jésus. Nous devons redonner espoir aux gens qui n'ont plus d'espoir. Le taux de suicide est effarant. Le taux de tentation de suicide dépasse toutes les, en France en tout cas, dépasse toutes les estimations. C'est énorme. Les hôpitaux spécialisés, dits psychiatriques, sont remplis. Il n'y a plus de place. Parce que le monde est rempli de désespoir. Nous devons être remplis de vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est ce que Pilate a dit à Jésus, a demandé à Jésus. Au moment de son arrestation, Pilate disait à Jésus, lorsque Jésus parlait de la vérité, il dit, mais qu'est-ce que la vérité? En grec, vérité se dit aletheia, qui littéralement signifie ce qui n'est pas caché, ce qui est mis à la lumière, ce que tout le monde peut voir. En hébreu, vérité se dit emet, qui est la racine du mot amen, qui signifie ce qui est sûr, ce qui est solide, sur ce à quoi je peux me confier en toute tranquillité, sur quoi je peux m'appuyer en toute sécurité. Voilà ce que veut dire vérité. Alors c'est vrai que les philosophes aujourd'hui vous diront, si la vérité existait, ça serait une révolution dans le monde. Mais cette révolution a eu lieu. Ils n'en ont pas tenu compte. Cette révolution a eu lieu. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit à Pilate, dans Jean 18, verset 37, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus est venu, on l'a rejeté, mais chaque année, on fête cet instant révolutionnaire, à Noël et à Pâques. Chaque année, on reconnaît, dans l'immense majorité, qu'il s'est passé quelque chose, sinon on ne le fêterait pas. Chaque année, on change de date. Il y a eu avant Christ, il y a eu après Christ. Même le plus athée témoigne de la véracité de Jésus-Christ en marquant la date sur ses papiers. Jésus ne dit pas « j'ai la vérité », il dit « je suis la vérité ». Ce n'est pas la même chose. Il ne prétend pas détenir la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est une personne sur qui je peux m'appuyer avec certitude et assurance. C'est une personne à qui je peux faire complète confiance. En dehors de Jésus, on trouvera des vérités, mais on n'aura pas la vérité. Un savant disait, Louis Pernot, écrivait ceci, « Plus la science progresse, plus on prend conscience que nous ne savons rien. » Intéressant. Jean Gabin disait la même chose. À la fin de sa vie, il disait « Je sais que je ne sais rien. » Et pourtant, on est fier, orgueilleux de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît. Ah, il a une grande connaissance. Il a une grande connaissance, mais il ne sait rien. Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Jésus change les vies. Lorsqu'un homme se tourne vers Jésus et le rencontre, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'un homme accepte que Jésus-Christ est la vérité, il reçoit alors une nouvelle identité et il comprend que Jésus veut qu'une chose, que Dieu veut qu'une chose, c'est son bonheur, c'est lui donner la paix, la joie, la sécurité, la sérénité, quelle que soit la situation dans laquelle on vit. Quelle que soit la situation dans laquelle on est aujourd'hui, mon cœur reste en paix et reste dans la joie. Je ne peux certes pas me réjouir des horreurs que j'entends, mais ce qui me réjouit, c'est que Dieu me garde dans ce monde troublé. Ça me réjouit. Ce qui me réjouit, c'est que pour moi, il y a de l'avenir et de l'espérance, me dit Jésus. La Bible me dit que pour moi, il n'y a pas de projet de malheur, mais des projets d'avenir et d'espérance, dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Alors, soyons dans la paix, dans la joie. Notre joie va susciter la curiosité de ceux, justement, qui ne connaissent pas encore la vérité et qui n'ont pas la paix dans le cœur. Dans le livre des Corinthiens, deuxième livre des Corinthiens, chapitre 3, verset 16, voilà ce qu'il est écrit pour nous. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté, on voit clair. On comprend les choses. On comprend ce qui se passe dans le monde. On comprend l'action de Satan. C'est sûr que si on ne connaît pas Dieu, si on ne s'intéresse pas à lui, on ne sait pas non plus qui est Satan et on ne connaît pas non plus ses desseins et ses plans. Verset 17, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La vraie liberté, pas celle que les hommes conçoivent. La liberté des hommes, la liberté d'avoir le droit de faire ce que j'ai envie de faire, ça c'est pas la liberté. C'est le début de l'esclavage. C'est de l'esclavage. La vraie liberté, c'est d'avoir une âme en paix. C'est de n'avoir rien à se reprocher. C'est d'avoir la conscience tranquille. C'est de pouvoir rentrer à la maison, parler avec sa femme, sans avoir peur qu'elle découvre que je l'ai trompée. Ça, c'est la vraie liberté. Mais ce n'est pas la liberté de tromper ma femme et de faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est le début de l'esclavage. Ou même l'esclavage, carrément. Pas seulement le début, c'est l'esclavage. L'Esprit du Seigneur nous donne la liberté, une nouvelle identité. On est des hommes nouveaux. Et si on se dit chrétien, alors on a l'identité d'un chrétien. On ne peut pas être chrétien que le mardi soir ou le dimanche. Et quand on est sorti de l'église, je ne suis plus chrétien. Ce n'est pas possible. Il y a un problème alors dans ma vie. C'est Alexandre le Grand un jour qui était, on lui a ramené des officiers en conseil de discipline. On lui en a ramené un en particulier qui avait fait preuve d'une grande lâcheté. Et alors Alexandre lui dit, comment t'appelles-tu? Et cet homme lui dira, je m'appelle Alexandre. Et Alexandre lui dit, comment toi tu t'appelles Alexandre? Ou alors tu changes de nom ou tu changes d'attitude. Si nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens tous les jours de notre vie. Et tous les jours, nous avons l'occasion, d'élever l'étendard de la croix et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que Dieu va créer des situations où nous allons pouvoir servir entre ses mains de témoins puissants pour tous ceux qui sont autour de nous. En conclusion, je dirais que la parole de Dieu va nous conduire, va nous aider à marcher dans la vérité. Dans le livre de Jean, au chapitre 17, verset 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité ». Ta parole est la vérité. On est sanctifié par la vérité et par la parole de Dieu. Je suis triste lorsque je discute parfois lors d'entretiens avec des chrétiens et je leur dis, mais vous lisez la Bible? Oui, enfin, oui, mais vous savez, j'ai pas beaucoup de temps. Mais vous savez, chaque jour, j'arrache la page du calendrier, je lis le verset du jour. Mais ta vie ne suffira pas pour lire la Bible sur ton calendrier. Hein ? Comment veux-tu être nourri si tu ne prends pas le temps de te nourrir de la parole de Dieu ? Comment veux-tu découvrir la vérité et être sanctifié par la vérité, comme il est écrit là dans ce livre de Jean, verset 17 ? N'ayons pas peur de dire la vérité. Parfois, on a peur de dire la vérité aux gens. Hein. Quand on a des gens que l'on connaît, des proches, et puis on sait que leur vie n'est pas droite, et on a parfois peur de leur dire la vérité. Nous devons annoncer la vérité, c'est pour leur bien. Si nous les aimons, nous devons leur dire la vérité. S'ils font des choses qui sont mauvaises aux yeux de Dieu, nous devons les avertir. C'est un homme un jour qui rentre à la maison et dit à sa femme, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé quelque chose d'étrange et je ne trouve pas la signification de ce rêve. J'ai vu dans mon rêve 4 rats. Un gros rat, 2 rats très maigres et puis un autre rat qui était aveugle. Et je ne comprends pas. Je cherche, je réfléchis, je ne comprends pas. Et puis sa femme, il demande à sa femme, est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu as une explication? Sa femme ne lui dit rien. Et puis il y a son petit garçon qui lui dit, papa, je vais t'expliquer. Le gros rat, c'est le barman chez qui tu t'arrêtes tous les jours où tu vas dépenser l'argent du foyer. Les 2 rats maigres, c'est maman et moi. Et le rat aveugle, c'est toi. Et quand il a fini de dire ça, il s'est taillé en courant pour ne pas recevoir une bonne raclée. Parfois, nous avons peur de dire la vérité. Il nous faut dire la vérité. Il faut avertir les gens. Nous n'avons pas le droit de les laisser aller dans leur péché. Dieu nous parle. Dieu nous a sauvés. Il nous a fait la grâce de nous sauver. Je pense que la majorité d'entre nous avons fait un pas vers le Seigneur. Nous lui avons donné notre vie. Nous avons fait alliance avec lui. Il nous a fait cette grâce extraordinaire. On n'a pas le droit de garder cette grâce uniquement pour nous-mêmes. Ça serait parfaitement injuste de notre part. Jésus aime tous les hommes. Il nous en a fait la démonstration. Jésus nous rappelle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Lorsque nous acceptons la vérité, nous ne restons pas figés. Simplement parce qu'on a accepté la vérité, on ne reste pas sur place. Non, on se lève. On se lève et on rentre sur ce chemin. « Je suis le chemin. » On prend le chemin, on prend le chemin de la vérité pour obtenir la vie et apporter la vie. Restons simplement, fermement attachés à ce que le Seigneur nous enseigne et demandons au Seigneur cette grâce. Seigneur, aide-moi à être un porteur de bonnes nouvelles. Aide-moi à annoncer la vérité, à vivre de manière véritable, à ne pas avoir 2 identités, mais une seule identité, la tienne, Seigneur. La tienne, celle qui est réelle, celle que tu m'as donnée, celle que tu m'as donnée lorsque je suis devenu ton enfant. Que le Seigneur nous bénisse richement et nous encourage pour l'avenir. Amen.
Enseigne-moi.com
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.